Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est aujourd'hui en compagnie de Rémi Barré, en compagnie du propriétaire de gîte Jérôme Lavrieux, du militant associatif Pierre-Édouard Magnan et du journaliste Daniel Riolo. Dans un instant, on va parler de la fête des voisins avec cette question. Doit-on vraiment être ami avec nos voisins? Vous pouvez y répondre, bien sûr, grâce au 3216 et grâce à l'appli RMC. Ne ratez pas, RMC s'engage pour vous vers 14h30 avec des révélations sur un scandale sanitaire qui touche des fromages véganes. C'est vrai que d'habitude, les véganes ne sont pas trop touchés par ça, mais alors là, vous allez voir que c'est absolument hallucinant. Et puis Rémi, on vous rappelle l'événement dans Estelle Midi vendredi.
Vendredi, nous serons en direct pour Estelle Midi, en direct d'Angers, depuis la terrasse du théâtre Le Quai. Pourquoi? Parce que Angers, là-bas, depuis quelques jours, eh bien, on peut nous écouter, enfin, sur 94 FM. Donc pour fêter l'événement, l'émission Estelle Midi en direct d'Angers, vendredi. Et si vous voulez y assister, c'est simple, vous vous inscrivez sur public@rmc.fr.
RMC Estelle Midi.
14h04 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la fête du jour et c'est celle des voisins qui aura lieu vendredi. Cet événement a désormais lieu tous les ans depuis 1999. Pas sûr que cette fête ait du succès quand même, Rémi, lorsqu'on sait que pour 72% des Français, un bon voisin est un voisin qu'on ne voit pas.
Exactement, mais à la question de savoir, il y a des chiffres contradictoires. Si les Français s'entendent bien avec leurs voisins, il y a une première étude réalisée par l'Institut BVA qui nous dit oui, les Français s'entendent très bien avec leurs voisins.
D'accord.
Cette étude a été réalisée en 2019, c'était pour le 20e anniversaire de la fête des voisins. Et elle nous dit que 81% des personnes interrogées déclarent entretenir de bonnes relations avec leur voisinage. Elles sont même 89% à se dire prêtes à donner une heure de leur temps chaque mois pour rendre service à un voisin. Sauf qu'une autre enquête tempère sérieusement cette première étude. Cette enquête, elle a été réalisée par le site immobilier de particulier à particulier. Là, on y apprend que les Français sont 55% à indiquer avoir des problèmes avec leurs voisins, qu'ils soient fréquents ou occasionnels. Seuls 10% des personnes interrogées parviennent à bien s'entendre avec leurs voisins, malgré le bruit et la proximité. La question du voisinage semblerait même être un faux problème, et ça rejoint un peu l'étude dont tu as parlé. Là, 40% des Français déclarent que ils ne s'entendent ni bien ni mal avec leurs voisins. Ils sont d'ailleurs tout autant, 38%, à estimer que le voisin idéal, c'est celui qui n'existe pas.
Oui, carrément. Oui, donc c'est de vivre en maison individuelle à la campagne, quoi, finalement. Alors, doit-on être ami avec ses voisins? On attend bien sûr vos témoignages au 32-16. Jérôme Lavrieux, vous n'en avez pas beaucoup, vous, de voisins?
Non, j'en ai pas.
Ah ben voilà.
Je suis au milieu d'une forêt, donc on entend des chevreuils, des sangliers. Dans les faits, j'ai beaucoup de voisins parce que j'ai toujours des gens qui viennent dans mes gîtes, mais au moins, ils changent tout le temps. Parce que le problème d'un voisin, s'il est super, c'est vachement bien, mais si vraiment il est infréquentable, vous en prenez pour 20 ans de mauvais voisinage. Et d'ailleurs, dans le code pénal, on a inventé les troubles de voisinage.
Donc, ça ils sont de plus en plus nombreux. Les gens ne se supportent plus.
Ça, c'est une chose d'avoir des voisins qui vous entendez ou vous entendez pas bien, mais est-ce qu'on est obligé d'être amis? Je pense qu'on peut, de toute façon, par principe, on ne peut pas obliger quelqu'un à être ami avec quelqu'un d'autre, sinon ce n'est pas un ami. Et franchement, la fête des voisins, déjà, il faut se taper la fête des mères, la fête des pères, Noël.
Oui, c'est vrai que c'est deux jours avant la fête.
Les injonctions festives, ça fait beaucoup.
Donc, qu'est-ce que vous êtes rabat-joie quand même.
C'est l'occasion de faire la fête.
Et encore, on ne vit pas ensemble, sinon vous vous en rendriez compte.
Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que en fait, tu rentres chez. Enfin, en fait, tu n'as pas besoin de prendre un taxi ou de prendre ta voiture pour rentrer, parce que tu es dans le même immeuble, donc c'est formidable.
Super.
Vous voyez, moi, je trouve que c'est très pratique.
Et vous allez la faire?
Mais je ne savais pas que. En fait, je l'ai découvert ce matin. D'accord. Qu'il y a la fête des voisins.
Tu vas la faire sur le plateau?
Mais moi, s'il y avait, je ferais, mais je ne sais pas où. Enfin, dans le hall.
Tu peux l'organiser, Stel.
Non, mais j'ai pas le temps.
Alors.
Mais non, mais j'ai non, pas mais le
sur
temps.
Le principe, tout le monde trouve puis ça génial, mais personne Angers, va le faire.
Mais enfin, attendez, Daniel Riolo. La fête des voisins, c'est une fête. Chose qui nécessite une organisation. Oui. La question, c'est s'entendre avec son voisin en rapport avec l'éventuel trouble dont tu parlais dans le. C'est le code pénal, le trouble du voisinage,
ouais, carrément. Mais évidemment, ouais. Bah attends.
Enfin, c'est quoi bien s'entendre avec son voisin? C'est genre.
Bah, c'est du rendre service. C'est genre,
tu rentres dans un
arroser
immeuble.
Ses plantes.
T'es dans un immeuble et tu dis bonjour poliment à ton voisin.
Non. Tu arroses ses plantes. Tu.
Mais si jamais on me le demande, si jamais il a besoin d'un service, pourquoi tu le rendrais pas? C'est quoi mal s'entendre? À part, enfin, pour pas s'entendre avec le voisin, il faut vraiment arriver à des extrémités.
Les gens qui habitent le plus proche de chez moi, je m'entends bien avec.
Moi, je m'entends bien avec mes voisins.
Je comprends pas. Moi, je me suis toujours bien entendu avec les voisins.
Mais quand, par exemple, le petit dernier la petite dernière fait une énorme fête, bon bah j'appelle pas la police parce que je m'entends hyper bien et que tu vois à 2h du matin je laisse filer, bon à 4h je vais taper à la porte, mais si tu veux, voilà, je vais pas avoir de mauvais rapports.
Ça, je l'ai connu, voilà. Je l'ai tous connu. La mère
si
partant,
je m'entendais pas, crois-moi,
faisait...
j'appellerais.
Bon, bah, une mais fois, si c'est deux fois, je le dis à la mère, j'ai bon, dites à votre fils tout, la troisième, j'y vais carrément le voir, je dis écoute, là c'est vraiment, il est 2 du mat maintenant, stop.
Et si ça continue? Ce qui arrive à pas mal de Français. Enfin,
mais
c'est la première. C'est la première source de.
Mais si ça continue,
les troubles du voisinage, c'est la première source de litiges liés au logement.
Rémi, si ça continue malgré. Enfin, moi, je trouve que pour qu'il y ait réellement conflit, c'est que si la première fois que tu lui dis à lui ou en l'occurrence à ses parents, si ça continue, ça veut dire qu'il se fout de ta gueule. Bon, ben dans ces cas-là, tu vas voir la police et tu vas intervenir. Mais si normalement, enfin la bienséance, c'est de que ça n'arrive
et
pas.
Tous les gens ne sont pas bienséants.
Voilà. Voilà. Bon. Bon, moi, j'ai changé souvent d'immeuble. Les rapports ont toujours été. Et une fois, c'est vrai, il y avait annuellement carrément une organisation dans la cour en bas où chacun apportait quelque chose pour cette fameuse fête des voisins. Bon, mais t'y passes poliment si ça t'emmerde d'être et que t'es pas très sociable, tu n'y restes qu'un quart d'heure. Et si t'as envie d'y rester,
t'avais
plus,
apporté
tu
quoi à manger?
Je sais plus, mais j'étais passé un petit peu. Après, j'avais pas envie que ça s'éternise. Au bout d'une demi-heure, tu passes à autre chose. Voilà.
Mais
au moins
y aller.
Oui, mais parce que c'est normal.
Mais je trouve ça bien.
Si c'est organisé dans l'hall, le gars qui va pas, il passe un peu pour le rabat-joie de service.
Ça, c'est
sûr. Après, personne t'oblige à passer, à rester jusqu'à 1h du mat et à picoler avec tout le monde.
C'est t'habites sûr. Habites le même endroit, Guillaume Levrieux. Ouais. Que Jérôme Levrieux.
Surtout... Il habite dans les champs, lui.
Et surtout que vous ne buvez pas. Voilà, Pierre-Édouard Magnan, vous en Normandie, vous allez organiser une petite fête des voisins ou pas?
Alors,
dans votre hameau?
Non, alors d'abord, moi non plus, je ne savais pas que c'était la fête des voisins vendredi soir.
C'est pour ça qu'on est là, c'était le midi, on apprend des choses.
Je suis bien d'accord. Alors, ça dit, vendredi soir, on est pris, nous, donc. Ça va être un peu compliqué et on n'est pas à la maison. Mais après, moi, j'ai un peu connu. J'ai aussi vécu en immeuble. Moi, j'ai vécu dans une copropriété où les gens s'entendaient bien. La copropriété assurait même elle-même son syndicat de copropriété.
Ah,
donc,
génial.
Du coup, il y avait une ambiance particulière et les gens se retrouvaient. Et d'ailleurs,
c'est
tout
un
monde
squat,
était pas obligé. Pas du tout.
Ah, non,
c'est pas du tout un squat.
Mais ça va.
C'est une communauté.
J'ai pas dit que c'était
une communauté où tout le monde gérait tout seul.
Non, j'ai dit copropriété. Donc, les gens étaient leur propre syndic. J'ai pas parlé de communauté squattée, autogérée.
C'était un colcause.
Non plus. Ni un kibbutz. Comme ça, on les a.
Bon, alors ensuite. Bon.
Donc voilà, aujourd'hui, enfin, moi après, je m'entends avec mes voisins. Avec ma femme, par contre, on a un couple d'amis qui ont été nos voisins, qui ne sont plus parce qu'on a déménagé, qui sont restés des amis.
Ah bah ouais.
Ils sont devenus des amis pendant qu'on était voisins. Ils sont restés nos amis maintenant que nous ne sommes plus voisins et effectivement on se voit toujours. Mais effectivement non. Après oui, je pense qu'il faut pas. Enfin, il faut pas avoir d'injonction. L'essentiel c'est d'avoir une relation apaisée et cordiale. Là encore, on en revient à la bonne éducation. Et je suis pas tout seul au monde. Parce que finalement, quand t'es près avec ton voisin, c'est que ton voisin ou toi. Mais enfin, c'est toujours le voisin qui est mauvais. Mais toi, se croit tout seul au monde. Je fais ce que je veux quand je veux et j'emmerde la terre entière. On revient toujours à la question de l'éducation, de l'individualisme, des gens qui ne se regardent qu'eux-mêmes et qui des fois effectivement gênent tout le monde au départ. Sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent tellement qu'ils sont même plus dans le truc que je vais peut-être casser les pieds aux gens, parce que t'avais des voisins qui faisaient une grosse fête, à la limite ce qui était sympa, c'est d'abord tu prévenais, quitte à dire, d'ailleurs si vous voulez passer boire un verre, n'hésitez pas, à la limite tu y allais pas, mais ça, machin, puis si ça arrive une ou deux fois par an, on a le droit de faire la fête. Le problème, effectivement, c'est quand les gens, ils ont l'air, en fait, d'en avoir rien à foutre de toi. C'est ça qui est insupportable.
Non, mais ou quand tu vis au deuxième et que, par exemple, t'es dérangé par n'importe, tous les bruits et que tu demandes à ta voisine du troisième. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un qui arrêtait pas de me dire, arrêtez de marcher en talons. Je ne marche pas en talons, en fait. Et c'était insupportable. Et j'ai déménagé. C'était pas possible, quoi. La personne me disait sans arrêt que je faisais trop de bruit.
C'était exceptionnel pour elle.
Moi, je vécu ça aussi.
Mais je faisais pas de bruit, rien. Et en fait, à un moment, tu dis, bon, bah, ça va. Et en plus, j'étais étudiant, donc je suis partie. Mais c'était impressionnant.
peu dingue. Hein, non, mais j'ai vécu ça aussi, on a l'impression de devenir un peu dingue.
Mais c'est ça. Et, ça et en fait, après, donc, t'as des amis qui disent, attends, faut chuchoter, c'est la voisine du dessous qui est un peu difficile. Mais
on
arrive à des extrémités
après,
qui sont
t'as aussi des gens qui vivent en collectivité et qui sont inaptes. Il y a aussi des gens qui habitent en immeuble en se disant qu'ils sont très, très doués pour vivre avec les autres et en fait, ils ne supportent rien qui ne vient pas d'eux.
Tout le monde a connu des expériences par rapport à ça. Le couple qui régulièrement entre en scène de ménage et t'assiste à tout pour peu que la fenêtre soit un peu ouverte. Moi, j'avais une voisine un peu âgée, un peu folle dingo, il y a quelques années. Tout, alors, vraiment, c'est vrai, vraiment, ça peut vous étonner. Tous les vendredis 17h, c'est un rendez-vous fixe, elle écoutait en boucle du Dalida.
Mais ça va, c'est
un hommage.
Bien, mais toujours une même chanson que, au final, je me suis pris à beaucoup aimer d'ailleurs comme chanson. Au début, je me disais, oh, je vais aller la voir, elle saoule tout le temps pareil et tout.
C'est tu voulais qu'elle change de disque en fait.
C'était en boucle, c'était en boucle.
Mais une playlist.
C'était en boucle, elle chantait dessus et tout, une espèce de castation un peu folle dingo.
Pendant 3 heures.
Et mais
pendant
combien de temps ? Ça durait 1 heure, 2 heures.
Ah ouais, quand même.
C'était tous les vendredis,
la même chanson.
C'est la chanson.
C'est la même chanson.
Pendant 2 heures, elle chantait la même chanson.
Parce qu'elle s'était rencontrée avec son mari sur cette chanson-là.
J'ai imaginé que
c'était le rendez-vous. Je rêve de mourir sur scène. Et puis il disait, mais quand ? Mais quand ?
Donc elle sortait quasiment jamais de chez elle en plus. C'était Aime-moi.
Ah, c'est oh,
c'est une super belle chanson en plus.
J'ai envie de pleurer.
Mais je
pense
au bout d'un moment, on s'est dit, ça lui rappelle quelque chose de douloureux.
Les vendredis, dans 2 heures, je pense qu'il y a un sens.
Quelqu'un qui est parti acheter des clubs un vendredi 17h.
Nous, on était dans la compassion tous les vendredis 17h.
On va écouter le témoignage de Dominique qui nous appelle de Pressa dans le Lot-et-Garonne. Dominique. Dans le Lot-et-Garonne, ça va Dominique ?
Oui, très bien, très bien. Alors moi, j'ai pas du tout les mêmes problèmes que vous parce que je suis dans une maison individuelle et mon voisin le plus proche est à 200 mètres.
Ah oui, bah vous êtes comme Jérôme Lavrieux, quoi.
D'après, il est à 400 mètres, donc voilà. Ah oui. Je suis en périphérie d'un petit village qui s'appelle Pressa, de 1000 habitants. Mmh. Et donc, le Covid nous a un petit peu éloignés parce que ça nous a un petit peu ralenti, quoi. Et là, on reprend.
À 200 mètres, vous risquez pas grand-chose, quand même.
Non, c'est vrai, mais en tout cas, non, on risquait pas grand-chose. Mais là, disons qu'officiellement, on pouvait pas le faire. Là, maintenant, officiellement, j'ai distribué une cinquantaine de petits flyers ce week-end auprès de tous mes voisins. Et puis, j'espère qu'on vient bien se retrouver une quinzaine, une vingtaine... dans un champ tout près, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est important. Alors, j'ai écouté la discussion que vous avez avec l'intérêt qu'on pouvait avoir d'inviter ses voisins et de les connaître, de les apprécier. C'est que je suis avec un certain nombre de personnes dans une mouvance, disons, vers la transition, en se disant, voilà, le monde de demain ne sera pas celui d'aujourd'hui. On risque de connaître des difficultés. Et c'est vrai que si on a des difficultés qui sont celles qu'on attend, le fait d'être en bon terme avec ses voisins permet à la fois des relations amicales, mais aussi des relations
des coups de main.
D'entraide.
Oui, bien sûr. C'est ça. Et Dominique, alors, c'est vous qui allez organiser la fête des voisins cette année, c'est ça ?
Oui. Il faut toujours qu'il y ait un volontaire.
Mais
en
oui.
Fait. C'est toujours. C'est vrai que c'est la. Alors, j'ai même essayé d'inviter d'autres. Puisque je suis conseiller municipal de la commune, j'ai essayé d'inviter d'autres quartiers à se.
Ah ouais, mais c'est plus des voisins là.
Non, mais quand je dis d'autres quartiers à faire leur propre fête dans leur quartier.
Ah oui.
Parce que
on n'invite pas tout le monde.
Il y a un autre quartier complètement de l'autre côté, à l'opposé de l'endroit où je suis, où il y a une fête voisin depuis des années et une fête d'ailleurs très importante, quoi.
D'accord.
Peut donner des envies à d'autres.
Eh ben écoutez, bonne fête, hein, Dominique. Bonne fête des voisins à vous. Ce sera donc
merci à vous.
Vendredi. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous, notre invité sur ce débat. Tu le disais tout à l'heure, Daniel. Tu disais, est-ce que ça existe les conflits de voisinage ?
Il y a des spécialistes de la question.
Alors, notre invité, il est avocat du barreau des Hauts-de-Seine et spécialiste des nuisances sonores.
Ah,
et c'est
nuisances
c'est...
sonores, ah oui.
Et il s'appelle Maître Christophe Sanson. Ce qui est quand
tu... Tu dis ça par rapport à Dalida, tout à l'heure ?
Mais non, par rapport aux nuisances sonores. Elle réfléchit.
Mais non, on pense en son et Dalida.
D'ailleurs, c'était pas Dalida, c'était Dalida.
Excusez-moi, maître. Donc, maître, mettez-vous. Maître Christophe Sanson. Mais vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir, maître, pour des problèmes de nuisances sonores.
Bonjour à tous. Oui, j'ai décidé de me spécialiser depuis une douzaine d'années sur... la lutte contre les nuisances sonores. Et effectivement, dans les problèmes de voisinage, on l'a vu à travers... Le débat qui a commencé, la question centrale, c'est souvent le bruit.
Mais alors, ça se traduit comment ? Alors, c'est ce que je disais, voilà, c'est une voisine qui supporte pas que vous marchiez avec des talons, ou c'est vraiment des grosses nuisances sonores ? Ils viennent voir pourquoi, vos clients ?
Pour les litiges entre particuliers, il y a trois groupes d'affaires principaux. Il y a les bruits de comportement, la fête un peu trop tard, les bruits de talons, etc. en appartement et aussi en pavillon. Il y a également toutes les machines qui font du bruit, la pompe à chaleur, le climatiseur, la pompe à filtration de la piscine, etc. Et troisième catégorie, le changement de revêtement de sol en appartement. On ne peut pas changer le revêtement de sol de son appartement parce qu'on risque de dégrader l'isolement acoustique dans l'appartement du dessous.
Ah, mais je ne savais pas.
Je ne savais pas, ça.
Oui. Mais c'est incroyable. Mais attendez, il y a vraiment. Mais attendez, il y a vraiment des gens qui viennent vous voir mettre en vous disant la pompe de la piscine du voisin fait trop de bruit.
Ah oui, je vous confirme, j'ai environ 800 dossiers en cours sur des sujets comme ça. Et on va du contentieux le plus léger pour des comportements un peu ponctuels jusqu'à des contentieux lourds, changement de revêtement de sol, pompe à chaleur évidemment, qu'on pose sans souci du voisin comme ça a été dit tout à l'heure.
Mais dans ces cas-là, maître, vous n'arrivez pas à gérer les choses à l'amiable parce que on se dit quand même qu'a priori, entre gens de bonne compagnie, ça doit pouvoir se régler. Un voisin qui va voir un autre et qui lui dit, excuse-moi, est-ce que tu peux soit faire moins de bruit dans tes comportements, on va dire,
ou change de pompe à chaleur, règle-la
différemment, ça doit pouvoir se faire.
Absolument, et c'est même notre devoir, nous, comme avocats, de tout faire pour éviter le procès. Ça rentre dans notre déontologie. Et donc, on va très souvent assister nos clients devant le conciliateur. Et en matière de bruit, c'est simple. Quand on est sur des machines, on essaye d'objectiver la nuisance avec un mesurage par un bureau d'études en acoustique. Ouais, et si ça échoue, on peut partir en expertise judiciaire.
Ah oui, carrément. Alors maître, restez avec nous parce qu'on est avec Daniel. Daniel qui nous appelle de Mézieux, à côté de Lyon. Daniel, il n'est pas trop fan de la fête des voisins. Bonjour Daniel.
Bonjour Estelle, bonjour à l'équipe.
Mais Daniel, pourquoi vous n'aimez pas la fête des voisins?
Alors... C'est pas que je le pense, c'est que je l'aimais bien, la fête des voisins. Le problème, c'est qu'on a eu une personne qui est passée président, et cette personne-là a tout fait pour mettre une ambiance dans le lotissement. On est 30 colotis, tous propriétaires de maison.
Daniel, il faut que vous parliez bien dans votre téléphone, sinon on vous entend mal.
Alors, je suis juste en face du téléphone, je peux pas faire mieux à me mettre dans la bouche.
Ne faites pas ça, Daniel. Alors, continuez.
Donc, je disais, donc, on est 30 propriétaires de maisons individuelles. Donc, toutes les années, on faisait la fête des voisins, hein. Tout le monde allait dans un parc privé appartenant au lotissement. Ce président-là est venu chez moi. Moi, je suis allé chez lui. Enfin, bref, c'était copain-copain jusqu'au jour où il y a eu un problème de stationnement. Mais dans le règlement des colotis, on pouvait se garer sur les trottoirs. Lui, ça lui a pas plu que tout le monde se heurte contre lui dans un vote. D'accord. Il est devenu président de l'association. Et il a raconté des obscénités, des bêtises, des mensonges. Enfin bref, il a monté tout le monde les uns contre les autres. Résultat des courses, l'année dernière, lorsqu'il a fait la fête des voisins, personne n'est venu. Enfin, personne ne lui a dit qu'il allait venir et il a dû annuler.
Ah oui, d'accord. Ah ouais, la rancune tenace alors, Daniel.
Ah oui. Moi-même, j'ai une avocate là, je vais traîner au tribunal. Donc,
c'est sympa, le voisinage.
On a dû déménager de Mézieux, on a une maison, pour habiter en location à Ambérieu, en Bugey, dans une autre maison, à 40 km, pour vous dire.
Ah oui, tout ça parce que votre voisin était casse-pied. Disons, c'est incroyable. Mais maître Christophe Sanson, il y a beaucoup de déménagements comme ça à cause d'un voisin qui n'est pas très sympa?
Maître? Parce que quand le. Allô?
Oui, maître, on vous écoute.
Quand mon client décide de déménager, c'est un échec pour moi.
Ah bah
donc,
oui.
On va tout faire pour éviter ce déménagement. Par ailleurs, un déménagement, c'est traumatisant, ça coûte cher. C'est vraiment, on emporte avec soi la défaite. Ouais. Donc, on peut arriver à des solutions. À l'amiable, de préférence, comme je le disais tout à l'heure, il y a la conciliation de justice qui existe et qui fonctionne assez bien. Ce sont des bénévoles, prévus par le code de procédure civile. On peut signer un accord devant le conciliateur et même le faire homologuer par le tribunal pour lui donner la force d'un jugement. Et puis, si on peut pas faire autrement, on part au procès. Plus souvent, un procès civil. Monsieur Lavrieux évoquait tout à l'heure le trouble anormal de voisinage. C'est une notion civile. C'est-à-dire qu'il faut prouver que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage. Et c'est vrai que c'est pas très facile à faire pour le juge parce qu'il faut des preuves. Il faut des constats d'huissier, il faut des témoignages, etc.
Mais t'as pas que ça. On a eu, par exemple, dans RMC S'engage pour vous la semaine dernière, un problème de voisinage. Il y a un voisin qui a installé une dizaine de ruches dans son jardin et il y avait des centaines d'abeilles dans le jardin de l'autre voisin. Les voisins se sont fait piquer, les enfants se sont fait piquer, etc. Donc là, tu vois bien qu'il y a quand même un truc. Et le voisin veut pas enlever ses ruches. Donc évidemment, il y a quand même des moments où tu tombes sur des gens qui sont particulièrement indélicats. Merci Daniel, en tout cas, de votre témoignage. Témoignage également d'Anne-Charlotte qui vit à Paris. Bonjour Anne-Charlotte.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Anne-Charlotte, vous vivez en immeuble ?
Oui, en immeuble à Paris.
Donc vous avez plein de voisins.
C'est pas un enfer parce que j'ai des voisinages très sympathiques. Ouais. Mais alors j'ai eu une voisine à côté où ça a été un enfer. Mon voisin d'en face et moi, on a essayé de tout faire, on n'a rien pu faire.
Mais c'est quoi un enfer, Anne-Charlotte ?
C'est-à-dire que des fêtes jusqu'à 5h du matin. Ah, donc dans les immeubles parisiens, vous imaginez bien que c'est pas forcément bien insonorisé.
Mmh, c'est sûr.
Donc quand on tape dans le mur 5 fois de suite et qu'on entend les voisins dire « Ah ben c'est bien, ta voisine va être contente ».
Oui. Oui, voilà. ça énerve.
Après, il y a les voisins d'en face qui se donnent le mot. Donc, c'est un jour par immeuble par fête dans le quartier. Ah. Donc, tout dépend en fait d'où vous habitez, je pense, des voisins que vous avez, de la communication que vous pouvez avoir en face. Et surtout, j'avais une colocation en face où c'était que des personnes, vous voyez, qui venaient, par exemple, d'Espagne, Colombie, donc qui ont l'habitude, en fait, de vivre dehors, et qui, donc, faisaient des fêtes jusqu'à 6h du matin, fenêtre ouverte, musique à fond. On avait beau appeler la police, elle se déplace pas. Faire des plaintes, ça ne fait rien.
D'accord.
Mon voisin d'en face a dû partir. Il est parti, il a déménagé.
Mais c'est fou, ça, quand même. Et vous avez quand même essayé, j'imagine, Anne-Charlotte, de leur parler à ces gens.
Oui, mais ils s'en fichent. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas, on a beau leur dire qu'on est secrétaire médical, qu'à 7h, moi je pars de chez moi pour être à 7h15 à mon boulot, qu'il est 5h du matin, ils vous regardent, ils font c'est pas grave, on continue.
Ah oui, d'accord.
Faire quoi dans ces cas-là ?
Bah rien, et surtout c'est les colocations et qu'effectivement c'est des étudiants étrangers.
Ça, de toute façon,
c'est des Erasmus, tu peux rien faire.
Soit la police se déplace et fait quelque chose.
Elle se déplace pas.
Soit vous vous taisez, soit ça provoque des réactions violentes et ça se termine en fait divers avec.
Si ce n'est pas vous, mais
quelqu'un de plus méchant que vous, qui va le menacer d'un coup de couteau ou un truc comme ça.
Ah non, mais la seule fois où la police est venue, c'est quand je les ai appelés une quatrième fois que je leur ai goûté. La prochaine fois que je vous appelle, ça fera 5, mais ce sera moi qu'il faudra embarquer. Voilà, ils sont venus.
Ah oui, c'est ça. Bah, dites ça la prochaine fois, dès le premier coup de fil.
Non, parce que ils attendent qu'il y ait d'autres appels aussi des voisins pour constater et commencer à comprendre que. Mais non, c'est très compliqué à Paris. Mais faut faire avec aussi.
Donc on sent bien que la fête des voisins sera pas trop pour vous vendredi, Anne-Charlotte.
Non, exactement.
merci en tout cas pour ce témoignage.
J'avais eu Daniel sur une autre émission, je voulais juste placer un petit mot et avoir une petite pensée pour Sergio Rico.
Et exactement, le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain qui est hospitalisé actuellement en Espagne. Merci beaucoup Anne-Charlotte en tout cas d'avoir été avec nous. Beaucoup de messages également sur l'appli RMC. Rémi, ça se passe bien ou pas entre voisins?
Moyen. J'ai par exemple Lydie, je vais prendre un message positif, hein. Les voisins
que les négatifs.
J'en ai beaucoup. J'ai des témoignages. Moi, mon voisin me dit, Stéphane, mon voisin, je ne le supporte plus depuis des années. Au départ, on s'est plus ou moins bien entendu, mais suite à une fête qui a dérapé et durant laquelle il ne m'a pas du tout respecté, on ne se parle plus depuis des années.
Je sens qu'il y a eu des.
J'avoue que c'est assez tendu.
Il a piqué sa compagne, je pense.
Bon, je ne sais pas.
C'est une histoire de voisine, ça.
Des histoires de voisinage, de tromperie entre la dame du 3e.
Ah bon, beauté, Daniel.
Lydie,
elle dit les voisins chez nous, c'est tous les jours la fête des voisins. Pas besoin d'obligation, c'est déjà le cas. La fête, l'entraide au quotidien, un bonheur. Sauf quand on oublie, tant pis pour lui, on s'amuse, on bricole. Voilà. Lydie, elle est ravie de ses voisins.
Ah, super. Elle a bien de la chance. Moi aussi, je suis ravie de mes voisins. Bon. Tiens. Alors, doit-on être ami avec ses voisins? C'est la question qu'on vous a posée. Et c'est vrai qu'on a la plus large majorité de la journée, Rémi.
Oui, je vais le dire d'une manière affirmative. Non! Pour 80% des personnes qui sont présentes, prononcées sur les réseaux sociaux.
Il n'y a pas d'obligation.
C'est une émission très positive.
Jérôme, tu n'as jamais gagné un scrutin aussi largement.
Mais moi, je veux bien être ami avec des gens, mais pas parce que c'est mes voisins. Si c'est mes voisins, c'est tant mieux.
Alors, dans un instant, on parle des véganes. Alors, souvent, on dit véganes, c'est génial, c'est sain, c'est formidable, c'est des légumes, tout ça. Eh ben non, pas du tout. On va vous parler d'un scandale sanitaire dans RMC S'engage pour vous. Un scandale sanitaire qui touche des fromages véganes. Vous allez voir, c'est absolument hallucinant. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Il est 14h31 et c'est l'heure à laquelle on accueille Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous.
RMC Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Amélie, vous nous faites des révélations sur un véritable scandale sanitaire dont on a déjà parlé dans l'émission.
Absolument, Estelle, on avait été alertée par une auditrice au mois de janvier et depuis, ça fait 4 mois, nous enquêtons sur les produits J&Joy suite au rappel massif de leur fromage au lait végétal. Et c'est un témoignage exclusif et édifiant que vous allez entendre. Contaminé à la bactérie Listeria, souvenez-vous, l'usine J&Joy dans l'Oise a produit des fromages vegan qui ont provoqué 5 cas graves de Listeria entre avril et décembre dernier. 4 sont des femmes qui ont accouché prématurément. Nous en avons retrouvé 2. Parmi elles, il y a Fanny. En juillet dernier, elle est enceinte de 7 mois. Tout se passe bien, mais tout bascule. Son récit fait froid dans le dos.
J'ai commencé à avoir des grosses sueurs, la fièvre, une toux très forte. Là, j'arrivais vraiment plus à marcher. Je me sentais vraiment partir, en fait. J'avais les ongles qui devenaient violets. Enfin, là, je me suis dit, il faut absolument que j'aille à la clinique. J'y suis allée. Et là, ils ont vu que j'avais une septicémie très rapidement. J'avais plus aucun contrôle sur mon corps. Mon bébé, sa situation devenait aussi grave. Il avait le cœur qui battait à 200. Enfin, il avait très peu d'activité. Il n'aurait pas fallu qu'il se passe un jour de plus. La bactérie a été identifiée, c'est effectivement la listériose. J'avais tout un protocole à suivre d'antibiotiques. Donc là, je suis vraiment restée alitée. J'ai très peu bougé tout le reste de ma grossesse.
Fanny est restée alitée en fait pendant 1 mois et a quand même accouché prématurément 1 mois avant terme. Les tests qui ont été menés par l'agence régionale de santé, c'est la règle dans ces cas-là quand il y a un rappel de produit comme ça, ont prouvé qu'elle a bien été infectée par la même souche de bactéries que celle retrouvée dans l'usine J&Joy. Aujourd'hui, Fanny va bien, son bébé qui est une petite fille de 8 mois aussi, mais Fanny elle a toujours des angoisses de mort qui perdurent parce qu'on imagine que la fin de sa grossesse a été terriblement angoissante au-delà de l'aspect physique.
Et si Fanny a décidé de prendre la parole, c'est pour dénoncer l'attitude de cette marque.
Oui, car dès qu'elle apprend sa contamination à la listeria, elle est à l'hôpital, on fait une culture en fait sur un prélèvement, on apprend que c'est la listeria. Elle contacte tout de suite J&Joy parce qu'elle se dit que ça peut être lié à ça et c'était effectivement le cas. Et elle demande à la marque de diffuser des alertes sur les risques liés à leurs produits pour les femmes enceintes qui sont particulièrement vulnérables à la maladie. Refus catégorique de la marque. Écoutez.
J'ai appris qu'il y avait une femme qui avait vécu la même chose que moi, qui avait fait les mêmes démarches auprès d'eux en avril, soit 3 mois avant. Je comprends pas comment on ne peut pas se dire, mon Dieu, potentiellement des femmes vont mourir avec mes produits. Faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça que je comprends pas. C'est que, est-ce qu'ils ont pas mesuré les risques, ou est-ce que c'était sciemment? Ça, je ne sais pas.
Fanny, elle a été infectée en juillet, hein, mais en avril 2022, soit quelques mois avant elle, un premier cas de listériose avait été déclaré. Et d'ailleurs, l'entreprise avait rappelé les lots suspects, mais la vente des autres produits s'était poursuivie normalement. Et aucune campagne de prévention à destination des femmes enceintes n'avait été lancée par J&Joy.
Et Amélie, vous nous révélez aussi que l'entreprise avait déjà rencontré de graves problèmes d'hygiène bien avant cette date.
Hein. Absolument, c'est ce qu'on a découvert en enquêtant. C'est une ancienne salariée qui a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Son témoignage a été confirmé par d'autres ex-employés avec qui nous sommes en contact. Asia, qui souhaite rester anonyme, est entrée chez J&Joy au tout début de la marque. C'était en 2019, au moment de leur lancement, donc avant l'ouverture de leur usine de l'Oise. À ce moment-là, ils travaillaient dans des locaux parisiens. Et donc, Asia, elle a travaillé dans leurs locaux. Elle nous a transmis des vidéos et des photos hallucinantes. On y voit une cave de 15 mètres carrés installée sous la boutique parisienne, sans fenêtre, sans issue de secours. Et infesté de rongeurs, surtout. Écoutez.
Oh. Moi, tous les matins, il fallait que je cherche là où il y avait les pièges pour retirer les souris mortes. Forcément, il y avait des excréments partout. Sur ma table de travail, sur les emballages des fromages, sur les cartons, sur les matières premières aussi. Je ne supportais plus de travailler dans ces conditions de saleté-là.
C'est incroyable.
Ouais, résultat, Asia a décidé de quitter définitivement l'entreprise, mais avant ça, elle a eu, disons, un geste citoyen puisqu'elle a contacté l'inspection du travail. Et le 15 juillet 2020, quelques jours après avoir alerté, des inspecteurs se sont donc rendus sur place. Dans un échange de mails que nous nous sommes procurés, l'inspectrice du travail explique ceci. Compte tenu du déménagement imminent des locaux dans l'Oise, puisque là on était dans la boutique parisienne, hein, mon action sera très limitée concernant l'hygiène et la sécurité, car l'entreprise ne sera plus sur mon secteur. Oui, mais quelques mois plus tard, le 26 décembre dernier. C'est justement dans la nouvelle usine de l'Oise que la bactérie Listeria est découverte sous une plainte dans l'usine.
Alors évidemment, Amélie, vous avez contacté la société J&Joy. Comment elle se défend, cette société ?
D'abord, la marque, elle nous informe qu'elle a arrêté la production depuis le 23 janvier, oui. Date à laquelle il y a eu ce rappel massif qui a déclenché l'enquête que nous avons menée à RMC S'engage pour vous. Mais elle nous explique que si elle a stoppé la production, c'est pour des raisons financières et qu'elle a demandé son placement en redressement judiciaire, ce qu'elle a obtenu le 8 mars dernier. Elle nous rappelle aussi qu'elle a présenté ses excuses aux victimes. Cette situation est une souffrance, explique la direction. À aucun moment, nous n'avons menti, poursuit-elle, par écrit, par mail. Suite à nos sollicitations, J&Joy a par ailleurs prévu des annonces la semaine prochaine, nous dit-on, sans plus de précision. On va évidemment suivre tout ça. Et puis, l'enquête des autorités sanitaires, elle aussi, suit toujours son cours. Donc, on viendra évidemment vers vous quand on a des nouvelles.
Mais évidemment, les vidéos que vous nous avez montrées sur RMC Story et les témoignages sont accablants. Merci beaucoup, Amélie Rosic, en tout cas, pour toutes ces révélations aujourd'hui dans Estelle Midi. Autre dossier demain, Amélie ?
Oui, un autre dossier. On va essayer de sauver des arbres.
Ah,
voilà.
C'est bien aussi.
De temps en temps, c'est pas mal aussi, non, de s'engager pour des arbres. Oui. C'est à Vichy, dans un très beau parc.
Eh ben, écoutez, très bien. On sauvera ces arbres de Vichy demain avec vous, Amélie Rosic, qui est de tous les combats, bien sûr, avec RMC. S'engage pour vous, on aide des gens, on aide des arbres, on aide tout le monde. Et si vous aussi vous voulez aider par Amélie, vous n'hésitez pas. RMC pour vous, @rmc.fr. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On va parler de la Coupe du Monde de foot féminine. Eh ben, on risque pas de pouvoir la voir.
Ouais, c'est compliqué de la voir à la télé.
Il n'y a pas de diffuseur. Bon, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et dans cette dernière partie, vous le savez, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait absolument pas rater aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on les commente, ces immanquables, avec Rémi Barré, Jérôme Lavrieux, Pierre-Édouard Magnan et Daniel Riolo. Et on va commencer tout de suite, Rémi, avec l'impasse du jour.
L'appel d'offres lancé par la Fédération de football pour les droits TV de la Coupe du Monde féminine n'a toujours trouvé aucun preneur. La compétition se déroule en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août prochain. Alors, l'écueil qui se présente, c'est que surtout les compétitions seront diffusées, enfin, les matchs sont diffusés le matin.
C'est ça.
L'après-midi. Et du coup, vu les prix qui circulent sur le coup que ça engendrait, on dit entre 15 et 20 millions d'euros qui seraient demandés par la FIFA, ça n'intéresse personne pour l'instant.
C'est 6 fois moins que pour les hommes, mais effectivement, on risque aujourd'hui en France de ne pas pouvoir voir la Coupe du Monde féminine. Oui. Ce serait quand même une catastrophe, Daniel. Alors on mise sur l'essor du football féminin, et si on ne peut pas regarder la Coupe du Monde, évidemment, c'est un problème.
En fait, ça pose plusieurs questions. Vous avez d'un côté la FIFA qui dit qu'elle veut absolument promouvoir le sport féminin, enfin le foot féminin. Donc il pousse limite jusqu'à l'agression verbale des diffuseurs en disant que c'est un scandale, qu'ils ne font rien pour acheter. Ils ont un chouïa baissé le tarif, mais ils veulent pas baisser complètement. Rappelons quand même quelque chose qui est très important, c'est que la Coupe du Monde va avoir lieu en Australie, Nouvelle-Zélande, et que donc les horaires de diffusion vont poser problème.
C'est ça, c'est ce qu'a dit Rémi.
Parce que ça va être matin ou midi. Oui, Rémi l'a dit, mais il faut préciser quand même que pour certains diffuseurs, je sais pas, prenons TF1 qui diffuse la Coupe du Monde masculine, à ce temps-là, ils ont des émissions qui font de l'audience, des jeux. Et si le football féminin marche, parce que les matchs qui sont diffusés sur M6, c'est entre 1 et 2 millions à chaque fois, parfois des pics à 2 millions et demi, bon. Ça suffit pas à faire la différence par rapport à ce que diffuse TF1 à ce moment-là.
Oui.
Donc aller payer 15 millions, c'est beaucoup par rapport à ce que leur coûtent les programmes qui sont diffusés à ce moment-là. Mais quand on dit, et quand arrive la polémique relayée par, j'ai lu une interview de Marinette Pichon, ancienne joueuse de foot de l'équipe féminine, qui dit « c'est un scandale, il faut absolument que les chaînes achètent ». Oui d'accord, vous n'allez pas demander à une chaîne privée d'acheter quelque chose qui va pas lui rapporter de l'argent. Donc, finalement, tous ceux qui veulent absolument faire la promotion du sport féminin dans un ensemble, parce que la ministre a également exprimé à ce sujet en disant que c'est pas bien, que c'est scandaleux, qu'on faisait rien pour l'égalité, si cela. Ok, très bien. Eh bien, dans ces cas-là, il faut obliger le service public.
Ben, c'est ça.
Que le service public sorte le carnet de chèques et l'achète. Sauf que, peut-être qu'il y a des gens qui ont pas envie de voir la Coupe du Monde féminine. On va pas non plus, en plus, obliger les gens à se mettre devant la télé pour regarder ces matchs-là. Donc, cette égalité à marche forcée, Je trouve que c'est un petit peu gênant.
Jérôme Lavrieux.
Ouais, mais enfin, si on prend le même raisonnement, si on avait pris le même raisonnement, et comparaison n'est pas raison.
Oui, bien sûr.
On aurait diffusé les Jeux Olympiques et on n'aurait jamais diffusé les Jeux Paralympiques. Donc c'est pour ça que le service public est là.
Ouais,
et les obliger, enfin, il y a suffisamment de chaînes du service public pour avoir un canal qui soit réservé.
Mais tu les obliges à payer 20 millions, donc c'est nos impôts.
Non, mais je pense qu'il faut renégocier le prix.
Et
je
pense que
c'est ce que dit.
Je finis. Je pense que la FIFA aurait été beaucoup plus intelligente si elle avait dit OK, vous voulez la Coupe du Monde masculine, mais c'est package avec les deux.
Exactement.
C'est ce qu'ont fait les fédérations olympiques.
Exactement.
Si vous voulez la CIO, les Jeux Olympiques valides.
C'est ça.
Ce qui rapporte en termes d'audience, si ce n'est en termes d'argent, vous devez diffuser un mois après la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Et s'ils avaient fait le package dans le prix global, ça se regardait et ça aurait été un peu plus intelligent.
C'est ça.
Ça aurait pu être une solution, même si l'horaire est encore une fois assez problématique pour les audiences.
On oblige si le service public ou pas, Pierre-Édouard Magnan, ou à payer 20 millions d'euros, ou on s'en passe?
Si on considère que la promotion du sport féminin en général, et du football féminin en particulier, y compris notamment d'un point de vue médiatique, est une nécessité, puisque c'est vrai que, à part historiquement un peu le tennis, on n'a pas de Roland-Garros, où depuis très longtemps on voit le tennis féminin à la télévision, Roland-Garros en tout cas. Pour le reste, il faut reconnaître.
Mais c'est une épreuve mixte.
Il faut reconnaître, mais c'est une épreuve. On voyait les deux.
Non, les matchs de football féminin, attention, ils sont diffusés sur M6, sur des chaînes publiques,
sur W9. Sur W9, je veux
dire, les gens peuvent les voir.
Ça faisait 10 millions pour la Coupe du Monde.
Ça passe pas inaperçu. Un match a fait beaucoup, mais globalement, ça avait marché.
Ça a bien marché.
La Coupe du Monde 2019. En France, a bien marché. Là, encore une fois, il y a vraiment si ça avait eu lieu en Angleterre, en Allemagne, je pense que sans problème, même si c'est W9, aurait continué, aurait diffusé. Là, c'est ce truc de diffuser le matin, tôt ou à midi.
C'est vrai,
en même temps,
ce qui a quand même été diffusé, de mémoire, la Coupe. Enfin,
bien sûr.
Ce serait les mecs, on se poserait. Le truc, j'entends tout ce que tu dis et tu as raison, et sans doute que l'idée de Jérôme est évidemment le bon moyen pour régler le problème. Il y a toujours ce petit côté, ce serait la Coupe du Monde masculine, on se poserait pas la question des
hommes. Mais les sponsors sont pas les mêmes, l'intérêt n'est pas le même, c'est
il y a quand même un progrès. Aujourd'hui, on parle du championnat de France féminin, qui suit pas un aficionados. À la radio, j'entends, j'entends ce qui se passe un peu dans le foot féminin, ce qui n'était pas vrai il y a encore 5, 6, 7 ans.
Ça, pourtant, personne regarde. Ça, c'est vraiment terrible.
C'est qu'on commence à en parler. L'équipe de France féminine, on la suit un peu, etc.
Dit aussi. Et là, c'est en juillet-août. Franchement, juillet-août, il y a un public qui peut être capable de regarder la télé.
Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Si une entreprise privée n'a pas envie de mettre 15 millions sur la table, parce qu'elle estime que ça va être un gouffre financier, vous pouvez me convaincre autant que vous voulez. C'est pas moi qui va sortir le
nez. Si la FIFA risque entre 15 millions et zéro, ils vont peut-être choisir 10 et là, le service public pourrait peut-être faire la
fête. Mais si à chaque fois, tous les OPI vont revenir dessus.
La prochaine fois, ils feront le package et ils ne se feront pas avoir. Jérôme a raison.
Le package, c'est une très bonne idée. La consultation du jour.
Consultation en ligne sur le projet de voie réservée aux covoiturage, au transport collectif, au taxi, sur le périphérique parisien. Projet porté par la mairie de la capitale. Donc il y avait une consultation en ligne. Résultat, un fiasco. Seulement 6100 avis ont été publiés. Alors qu'un million et demi de véhicules empruntent quotidiennement cette voie. Et 80% des contributeurs expriment leur opposition à ce projet.
Évidemment.
Reste que ce projet ira bien à son terme, d'après la mairie de Paris. La voie réservée aux athlètes, organisateurs et personnels médicaux pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera bien pérennisé au-delà pour accueillir taxis, bus et covoitureurs.
Fallait s'y attendre. Jérôme Larrieux, est-ce que c'est scandaleux en fait d'organiser un vote et puis de faire tout le contraire du résultat du vote?
Mais je comprends pas pourquoi ils font un vote.
Ben c'est ça, on comprend.
Moi, je suis contre pour ces consultations très régulières. Parce que déjà, et si ça avait été 6400 votants et qu'ils avaient dit oui, je suis à fond d'accord avec. C'est pas représentatif. Si on fait des élections,
c'est aux gens d'aller se déplacer.
Non, mais moi, je suis désolé. Si je vote aux élections municipales, c'est que je confie à une équipe municipale le soin de gérer la commune pendant les 6 ans. Et si à la fin, je suis pas bien d'accord avec eux, ben je les bats et je les change. Ça s'appelle la démocratie représentative. C'est bien mieux que de faire une consultation bidon. Alors, il y a des mairies qui le font, mais ils s'arrangent. Quand on a envie qu'il y ait du monde qui se déplace, il y a du monde qui se déplace. Quand vous avez 15 000 habitants et que vous avez 5 000 votants, ça représente quelque chose. Là, 6 000, c'est que vraiment, il y a des types qui ont trouvé l'info, parce que on a fait exprès de le cacher. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'ils savaient à l'avance. Et de toute façon, ils en avaient rien à secouer. Ils allaient s'asseoir sur la consultation, donc il fallait pas la faire.
Anne Hidalgo n'en a rien à secouer, ce que pensent les Parisiens. Non, c'est pas utile.
Ah ouais, mais elle est réélue à chaque fois.
Je sens un soupçon d'ironie.
Moi, je pensais que quand il y avait un vote, on s'y pliait.
Elle a été réélue deux fois.
Oui, mais moi, je me rappelle.
Avec pourtant pas la majorité du nombre de voix.
Mais ça, c'est le propre d'un scrutin. Ça, c'est le propre du scrutin.
C'est pas très grave.
C'est à tous, c'est pas une nouveauté. Après, ça, c'est le problème. Moi, je me rappelle en 17, 18, 19, tout le monde nous expliquait qu'il fallait quasiment qu'Hidalgo se présente pas parce que c'était même pas la peine qu'elle aille au casse-pipe. Elle a été réélue. Le problème, c'est qu'elle ne. Malgré tout, elle dirige surtout, en fait, pour les Parisiens, qui est emmerdé sur le périph. C'est les gens de la banlieue, c'est les gens de l'Île-de-France, c'est les gens de la province. Les Parisiens purs qui habitent dans Paris.
Elle a fait 2% à Paris à la présidentielle. Ça reste un mystère.
Oui, c'est comme ça.
Dans tous les sens. Sa présence à MAP reste un mystère.
Il n'y a pas de rapport entre un scrutin municipal et un scrutin présidentiel. Je suis sûr que Jérôme pourrait citer des tonnes de communes qui votent à droite tout le temps, sauf au municipal et votent à gauche, et réciproquement d'ailleurs. C'est un scrutin toujours très particulier.
Je m'empêcherai pas de trouver ça mystérieux.
Toujours très mystérieux.
Après, effectivement, on fait pas un scrutin.
Qu'ils avaient peur qu'elle devienne présidente de la République, ils n'ont pas voté pour elle pour la garder.
Mais en tout cas, effectivement, quand on demande aux gens de voter.
Je ne sais pas.
Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut rénover la démocratie représentative, mais je reste attaché à la démocratie représentative. Par contre, à partir du moment où on demande aux gens de voter, on va leur dire les gars, vous avez voté, mais comme vous n'êtes pas assez nombreux et que vous n'avez pas voté comme je voulais, je m'assois sur votre vote. Il fallait mieux, effectivement, ne rien leur demander. À la licence programme, elle le fait. Ça se défend. On peut être pour ou contre. On pourra d'ailleurs faire un débat dessus. Mais on va pas demander l'avis aux gens pour dire finalement, je passe quoi dessus.
L'inauguration du jour.
Inauguration aujourd'hui de la première giga-usine de batteries électriques en France. Ça se passe dans la ville de Douvrin, on est dans le Pas-de-Calais. Le site qui appartient conjointement à Mercedes, Stellantis et Total Energy représente plus de 8 milliards d'euros d'investissement et 2000 emplois à terme.
C'est une bonne nouvelle ça, Jérôme Lavrieux.
Et puis en plus, c'est dans la bonne région, celle qui me plaît le plus, c'est la région des Hauts-de-France. Ce qui montre que on a toujours tendance à dire le gouvernement fait rien, les pouvoirs publics font rien. Si ça se fait tout ça, toutes ces usines qu'on annonce et qu'il a ouvre concrètement, c'est parce qu'il y a eu une vraie décision politique de concentrer les investissements, les aides pour le faire et faire en sorte qu'il y ait une sorte de microclimat qui soit favorable, comme on a eu la Silicon Valley en Californie. Là, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'Automobile Valley. Et pour une fois, on va essayer de rattraper notre retard.
Il faudra trouver des gens après pour y travailler. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous qui vous occupez des chômeurs et des précaires, Pierre-Édouard Magnan, ça fait du boulot.
Évidemment que c'est une bonne nouvelle. Surtout qu'en plus, vu le niveau de l'investissement à 8 milliards, on peut imaginer qu'il s'installe pour un certain temps. Parce qu'il va falloir un peu de temps quand même pour rentabiliser. Et comme ces gens-là ne sont pas des philanthropes, ce qui n'est pas un reproche en la circonstance, on peut imaginer que ça va durer un certain temps. C'est sans doute effectivement au bon endroit. Donc c'est très bien. On crée de l'emploi industriel qui en plus entraîne de la sous-traitance, entraîne des familles. Enfin, on rentre dans un cercle vertueux quand on fait ça.
Il y a deux doigts de défendre la mondialisation. Fais attention, freine.
Je n'ai pas à défendre. Attaquer la mondialisation, elle existe. Et d'ailleurs, elle existe depuis des siècles, la mondialisation. Et tu parles à l'historien. Donc, il faut essayer de faire au mieux pour les gens qui la subissent, pour qu'au moins ils la subissent positivement, ce qui est le cas des 2000. Non, mais généralement, on peut être contre la mondialisation. Tu sais, je suis aussi contre la famine et contre le travail des enfants.
Est-ce que tu es contre la guerre aussi?
Aussi, oui, ça m'arrive. Ouais. Contre la guerre.
Moi, ce qui m'étonne, c'est quand même qu'on n'arrête pas de nous dire que, en fait, ces batteries polluent et que finalement, l'électrique, c'est pas si bien que ça. Et donc, nous, on est toujours en retard. Donc, on ouvre évidemment une giga-usine de batterie. Donc non, mais ça, excusez-moi, mais ça pose quand même question.
Qu'on est en train de trouver les plus gros gisements qui existent.
Dans le Nord.
Non, en Alsace. Sur la matière première.
Les
gisements estimés, ça permettrait de couvrir 50% des besoins français.
C'est déjà pas mal. Si on avait 50% de nos besoins en pétrole, on n'aurait pas eu de problème pendant des décennies. Donc c'est plutôt pas mal de le faire.
On n'a pas de pétrole, mais on a du lithium.
Oui, d'accord. De toute façon, si elles se font pas là, elles se feraient ailleurs et elles pollueraient ailleurs pour le peu qu'elles vont
polluer. Alors polluons chez nous. Ah oui, ce serait dommage.
Ouais, mais après c'est un débat. Moi, je viens de cette région. Rémi aussi vient de cette région. C'est eux qui ont payé le plus gros sacrifice.
On a eu le charbon maintenant.
Avec la fin de l'industrie en France. Hein.
C'est ça,
c'est un juste retour des choses.
Oui, et maintenant, c'est les batteries électriques. Voilà,
ce sera du lithium.
C'est moi. Oui, c'est-à-dire, on n'avait pas de pétrole, on a du lithium.
Voilà.
On n'a plus d'idée, mais on a du lithium.
Ils changeront la chanson, voilà.
Ouais.
Au Nord.
C'était le lithium.
Ce sera le lithium.
Allez.